Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, c'est Gisèle ?
C'est tout à fait ça.
Bonsoir, c'est Aline pour Histoire au bout du fil.
Oui.
Vous allez bien ?
Oh, mais très bien, pas de souci.
Formidable. Vous êtes bien installée ?
Oui, confortablement.
Et au niveau du son ?
Parfait.
Bah, formidable. Donc du coup, on se rencontre ce soir pour une petite séance des Nuits de la Lecture sur le thème de la peur. Et donc, je vous ai prévu un petit menu avec, pour démarrer, une petite histoire des éditions pneumatiques que j'aime beaucoup parce que ce sont des petits livres-objets qu'on peut tout simplement poster aux autres, comme une carte postale.
D'accord.
Cette petite histoire de Nathalie Labarre s'appelle « Nocete Ipsum ». C'est parti pour démarrer ce menu. Arthur adorait que ses parents travaillent le dimanche. Il restait seul avec son grand-père, dans son magasin d'antiquités, passait des heures à farfouiller dans les vieux meubles, au milieu de souvenirs qui n'étaient pas les siens. La devanture grisâtre de la boutique lui procura un petit frisson. La vitrine était si sale qu'on ne voyait plus à travers. Seule brillait la poignée de porte en cuivre, patiné par le temps. Sa maman l'embrassa sur le front et le poussa gentiment dans le magasin en criant « Papa, je te laisse Arthur, je file, je suis en retard !» Pendant que tintanubait la cloche annonçant l'entrée des visiteurs. L'enfant resta seul, attendant en vain le glissement feutré des chaussons de son papy. Quelques instants immobiles pour habituer ses yeux à la pénombre, il appela. Silence. Le grand-père devait être enfin au fond de la boutique, triant des vieilles partitions ou remettant en état une commode vermoulue. Arthur s'avança sur des lattes grinçantes du parquet, se faufila entre les odeurs d'encaustique, abandonna son manteau par terre et s'assit sur un fauteuil crapaud dont sortit un nuage poussiéreux. Il éternua, sauta trois fois sur ses fesses pour en faire sortir d'autres poussières. Puis, se leva d'un bond, attiré par la marqueterie d'une table de nuit. Il passa ses doigts sur une écaille de nacre décollée, tourna autour du petit meuble, chercha une faille à explorer. Arthur adorait trouver de vieilles lettres manuscrites, des photos à demi effacées, des boutons de cuivre. Il collectionnait ses trouvailles dans une grande boîte en métal rouillé rangée sous son lit, si son grand-père le lui laissait. Le soir, avant de s'endormir, il les sortait, une à une, les frottait contre son pyjama pour les faire reluire, lisait pour la centième fois les mots écrits à l'encre violette, s'imaginait mille histoires. De l'ongle, il creusa le tour d'un nœud, une bague aurait pu y être dissimulée. Le morceau de bois était difficile à extraire. Une écharde s'enfonça dans la pulpe de son index. En se relevant, pour susciter la plaie, Arthur vit que la grande armoire en acajou était ouverte. Ce meuble, il le connaissait bien. Situé dans l'allée la plus encombrée, il l'avait toujours attiré, fasciné, inquiété. Trois fois grand comme lui, son bois sombre lui donnait des airs sinistres. Renforcé par la monumentale corniche gravée d'une inscription, une formule magique, sans aucun doute. « Nocete Ipsum », murmura-t-il. Chaque fois qu'il avait voulu y farfouiller, il avait trouvé les portes verrouillées, ou le grand-père devant, qui lui en interdisait l'accès et conservait la clé dans la poche de son pantalon. « Nocete Ipsum », murmura-t-il encore, s'approchant. Le battant de droite bougea comme sous l'effet d'un court d'air. Tout excité par l'occasion inespérée d'assouvir sa curiosité, Arthur jeta un grand regard autour de lui et ouvrit le ventre noir de l'armoire. L'intérieur dégagea une faible odeur surie, une tablette unique, légèrement de guingois, coupée en deux la hauteur. Le bois craqua quand Arthur s'accrocha au bord de la planche. Sur la pointe des pieds, il réussit tout juste à poser le bout de son nez et son regard rencontra des boîtes alignées. Quel trésor ! Il tendit le bras au hasard, saisit un couvercle et le rapprocha tant bien que mal, les muscles étirés au maximum, il sortit une boîte en osier tressé, vernie, toute simple. Elle était surmontée d'un bout de roseau taillé en forme de grenouille et d'un autre, un chiffre, 2. Arthur alla s'asseoir sur le fauteuil, cala la boîte sur ses genoux et l'ouvrit avec délicatesse. Autour de lui, les meubles disparurent dans une masse boueuse. Dans l'eau d'une mare profonde, il battit des bras et jambes pour retrouver l'air libre. Ses poumons étaient figés par l'eau glacée. Sa gorge avala une grande goulée d'air quand ses battements violents le ramenèrent à la surface et une grenouille vint s'enfoncer dans sa bouche. N'eut pas le temps d'en ressortir. Une brutale aspiration le coinça dans la gorge. Ses mains rencontrèrent des herbes coupantes. Il tira et sentit la terre humide de la rive. Toussant, crachant, Arthur se retrouva au milieu des antiquités, le souffle court. La boîte était tombée de ses genoux, renversée côté couvercle. Il la ramassa et trouva si improbable ce qu'il venait de vivre qu'il osa y jeter un deuxième coup d'œil. Là encore, la boîte lui glissa des mains. Mais sous l'effet des chatouilles, des pattes de batracien qui se déplaçaient sur son corps, il se laissa choir sur le sol, se tordant de rire, mi-amusé, mi-dégoûté par le contact froid et grouillant. Pouffant encore, il reposa la boîte sur l'étagère et en sortit une autre, peinte d'un 5 et d'une étoile jaune. Ronde, un peu rugueuse. Du couvercle à peine soulevé jaillirent les aboiements féroces d'un berger allemand, à quelques centimètres de son visage. Tétanisé, il faisait face à l'animal, tenu en laisse par un officier allemand, qui hurlait lui aussi. Les crocs dégoulinaient de bave et la laine puait. Les doigts rachitiques de l'enfant se crispaient sur son pantalon, qui se tachait d'urine. Le liquide brûlait les plaies de ses jambes, trempait ses pieds nus, tout en se glaçant sous l'effet du vent. Il s'évanouit en sentant la mâchoire de la bête mordre sa joue. Arthur profita de ce bref instant noir pour se ressaisir et claquer le couvercle. Il était en sueur. Et cette boîte-ci, il se dépêcha de la remettre en place sans y regarder une deuxième fois. Il attrapa une troisième boîte. Une dernière, se dit-il, malgré son cœur qui battait à tout rompre. La tentation était trop forte, depuis le temps qu'il se demandait ce que contenait cette armoire. Il s'installa au pied du meuble, prêt à y jeter immédiatement l'objet, si son contenu lui faisait trop effet. Il inspira profondément, ouvrit le couvercle noir orné du chiffre 7 et vit son reflet dans un grand miroir sur pied. Il était son papy, plus jeune, devant son lit, serrant la main froide d'une femme étendue, immobile. Elle ressemblait à sa grand-mère, mais en moins belle que sur les photos du salon. Son visage creusé, osseux, sa peau jaune et les cheveux rares collés par plaques. Une odeur douceâtre flottait dans la pièce et les sanglots de l'homme ne trouvaient pas d'autre réponse que le silence. Il posa sa tête sur le corps de sa femme, murmura qu'il n'y arriverait jamais sans elle, que ce serait trop dur. Elle n'avait pas le droit de partir. Arthur revint à lui entre deux sanglots, le visage baigné de larmes. Il ferma la boîte, caressa le voile de crêpe noir qui l'habillait, s'essuya le nez du revers de sa manche. Il en avait assez vu. Avant d'avoir repoussé le lourd battant de l'armoire, Arthur sentit derrière lui une présence. Il se retourna. Voûté, les sourcils broussailleux, une silhouette qu'il ne reconnut pas tout de suite se tenait un pas de lui. Il poussa un cri puis reconnut le sourire bienveillant de son grand-père. Se jeta dans ses bras. D'une main, le vieil homme coiffa tendrement les cheveux de son petit-fils. « Regarde ce que je viens de finir pour toi. » Il présenta à Arthur une boîte parfaitement cubique, blanche, hormis les fragiles charnières dorées et le chiffre 1 pyrogravé. « Prends-la, c'est la tienne, ta première. » Encore bouleversé, Arthur leva les yeux, interrogea son grand-père du regard. « Place-y ta première grande peur, celle qui t'empêche d'avancer dans la vie. Ferme bien le couvercle et si tu veux la ranger près des miennes, quelque temps, fais-le. Après, je te montrerai comment fabriquer d'autres boîtes. Et puis ensuite, quand je ne serai plus là, bédame, tu te débrouilleras pour en faire d'autres, à ta façon. » Le visage d'Arthur s'illumina. Il saisit délicatement sa boîte d'une main et posa l'autre sur la joue de son grand-père. Il caressa la vieille cicatrice, revit les crocs terrifiants. « Dis, papy, est-ce que tu peux m'aider à peindre une grande armoire sur le couvercle ?» C'était une petite histoire de Nathalie Labarre, des éditions Pneumatiques.
Mmh.
Vous êtes là, Gisèle ?
Oui, ah mais oui. Je vous écoute, je ne voulais surtout pas vous interrompre.
Eh bien là, vous pouvez maintenant, pour cette première petite histoire, partager si vous avez envie. Un petit mot.
Et j'étais dans l'interrogation, les yeux fermés, en me disant, donc, il veut reproduire l'armoire où il a eu ses premières peurs.
Les petites boîtes pour mettre les peurs. Oui, c'est ça.
Hein, c'est oui, ça. C'est ça. Oui. On est bien d'accord. Oui. Voilà. Très belle histoire, bien racontée. Bon, par moments, ça coupait un petit peu, mais non, j'ai tout bien, voilà.
C'est votre téléphone, il ne fonctionne pas bien ?
Si. Remarquez. Non, c'est vrai qu'on m'a fait la remarque déjà ce matin. Donc, peut-être. Mais non, très belle histoire. Vraiment, bien. Bravo.
Alors, je vais continuer. Alors, cette fois-ci, on va aller un peu plus dans la peur ou dans l'angoisse avec Stephen King.
Mmh.
Vous connaissez ?
Non, justement.
Et je vais vous lire un petit extrait de Shining, l'enfant lumière. Aujourd'hui, il faisait gris, et dès avant midi, le ciel avait commencé à cracher de la neige. La radio, qui prédisait 20 à 30 cm de neige et plus, n'arrêtait pas d'encenser la déesse précipitation, bénédiction des skieurs du Colorado. Assise dans sa chambre, Wendy tricotait une écharpe tout en se disant rageusement qu'elle savait exactement où les skieurs pouvaient se foutre toute cette neige. Jack était au sous-sol. Il était descendu vérifier la chaudière. Ses visites de contrôle étaient devenues rituelles depuis que la neige les avait emmurées. Et après s'être assuré que tout allait bien, il s'était dirigé vers le passage voûté. Il avait vissé une ampoule pour s'éclairer et assis sur un vieux siège de camping qu'il avait trouvé là, il effeuillait les vieilles archives tout en s'essuyant constamment la bouche de son mouchoir. Il avait trouvé glissé entre les factures pro forma, les récépissés d'expédition et les reçus, des choses bizarres, inquiétantes. Un lambeau de drap taché de sang, un ours en peluche désarticulé qui semblait avoir été déchiqueté, une feuille de papier à lettres de femme toute froissée et qui, sous l'odeur musquée du temps, gardait encore une relent de parfum. Le bleu de l'encre était passé et la lettre était restée inachevée. « Tommy, mon chéri, je n'arrive pas à réfléchir ici, comme je l'avais espéré. Chaque fois que j'essaie de penser, à toi bien sûr, car à qui d'autre penser, je suis sans cesse dérangée et je fais des rêves étranges où j'entends frapper des coups dans la nuit. C'est drôle, n'est-ce pas ?» C'était tout. La lettre portait la date du 27 juin 1934. Elle le fascinait. Sans qu'il sût dire pourquoi, il avait l'impression que toutes les pièces de ce puzzle devaient s'emboîter les unes dans les autres. Mais il fallait trouver celle qui manquait pour que tout se mît en place. Alors, il persévéra, poursuivant ses recherches tout en essuyant ses lèvres et sursautant chaque fois que la chaudière derrière lui se rallumait en rugissant. Dany était de nouveau devant la porte de la chambre 217, avec le passe-partout dans sa poche. Il fixait sur la porte un regard absent, hypnotisé. Sous sa chemise de flanelle, ses muscles se contractaient involontairement et il chantonnait doucement un air monocorde. Il n'avait nullement souhaité revenir ici après l'histoire de l'extincteur. Il était effrayé de se retrouver devant cette porte et plus encore d'avoir désobéi à son père en prenant le passe-partout. Mais il avait fallu qu'il revienne. Il avait cédé une première fois à la curiosité sans le satisfaire. Il avait mordu à l'hameçon et maintenant... il était pris. Sa curiosité inassouvie le hantait à longueur de journée, comme un chant de sirène. D'ailleurs, M. Halloran lui avait bien dit « Je crois que tu n'as rien à craindre ici. » M. Halloran avait certainement raison. C'était parce qu'il n'y avait rien à craindre qu'il les avait laissés emprisonner par la neige, sans rien dire. Ce qu'il avait vu dans la suite présidentielle, avait disparu. Et s'il s'était rendu compte que le serpent n'était qu'un tuyau d'extincteur tombé sur la moquette, il n'y avait rien, absolument rien à craindre dans cet hôtel. Et si pour se le prouver, il avait besoin de pénétrer dans cette chambre, ne fallait-il pas le faire ? En venant, il s'était arrêté devant l'extincteur. Et le cœur battant, follement, il avait remis la lance en cuivre sur son support. Il l'avait tapoté du doigt en murmurant. « Allez, mords-moi, vas-y, allez, vas-y, espèce d'imbécile. Tu n'y arriveras pas, hein, tu n'y arrives pas, hein. Tu n'es rien d'autre qu'un misérable tuyau d'extincteur. » Tout ce qui se fait faire, c'est étaler par terre. « Allez, vas-y, vas-y donc. » Sa bravade lui avait paru d'une audace insensée. Dany tira le passe-partout de sa poche et le glissa dans la serrure. Il palpa la clé, la caressa de ses doigts. Il avait la bouche sèche et ne se sentait pas très bien. Il tourna la clé et le pen sortit facilement de la gâche. Dany poussa la porte qui s'entrebâilla sans la moindre grincement. Une grande pièce, à la fois chambre et living, s'ouvrait devant lui. Il y faisait sombre, non pas à cause des congères qui n'arrivaient pas encore au niveau du deuxième étage, mais parce que 2 semaines auparavant, son père avait fermé tous les volets de l'aile ouest de l'hôtel. Dans l'entrée, il tâtonna puis trouva l'interrupteur qui alluma 2 ampoules dans un plafonnier en cristal taillé. Dany entra et regardant autour de lui, vit une moelleuse moquette d'un vieux rose reposant, un grand lit avec un couvre-lit et un secrétaire. S'avançant encore de quelques pas, il put s'assurer qu'il n'y avait rien dans cette chambre, absolument rien d'anormal. Ce n'était qu'une pièce vide et froide. Papa chauffait l'aile est aujourd'hui. Une commode et une table de nuit sur laquelle on avait posé une Bible complétait l'ameublement. Au fond, la porte entrebâillée du placard laissait voir une rangée de cintres. À gauche, la glace en pied de la porte de la salle de bain lui renvoyait le reflet de son visage. Il regarda son sosie et le salua gravement de la tête. Oui, c'était bien là ce que ça prouvait. S'il y avait quelque chose à trouver, c'était bien là, dans la salle de bain. Son sosie s'avançait toujours comme s'il voulait sortir du miroir, puis tendit la main et la pressa contre celle de Dany. Quand la porte de la salle de bain s'ouvrit, le sosie s'éloigna de biais et Dany put glisser un regard à l'intérieur. C'était une salle de bain tout en longueur, qui avec son luxe démodé faisait penser à un wagon, salon de train chez Pullman. Dany se dirigea vers la baignoire. Il avait l'impression de se trouver dans un rêve, un des rêves de Tony. S'il écartait le rideau de douche, il découvrirait peut-être quelque chose d'agréable, quelque chose que papa avait oublié ou que maman avait perdu, quelque chose qui leur ferait plaisir. Il fit glisser le rideau de douche. La femme qui gisait dans la baignoire était morte depuis longtemps. Elle était toute gonflée et violacée, et son ventre ballonné par les gaz et ourlé de glace émergeait de l'eau gelée comme une île de chair livide. Elle fixait sur Dany des yeux vitreux, exorbités comme des billes. Un sourire grimaçant étirait ses lèvres pourpres. Ses seins pendillaient. Les poils de son pubis flottaient à la surface et ses mains congelées se recroquevillaient sur le bord de la baignoire en porcelaine. Dany hurla, sans qu'aucun son ne sortît de sa gorge. Le cri refoulé plongea au fond de son être comme une pierre qui tombe au fond d'un puits. Il recula de nouveau, faisant tinter le carrelage sous le pied, et subitement il sentit que son affolement, il s'était inondé d'urine. Alors, la femme se mit sur son séant. Toujours grimaçante, elle rivait sur Dany ses énormes yeux exorbités. Ses paumes mortes crispées sur la porcelaine, ses seins se balançaient comme de vieux punching balls craquelés. Les yeux écarquillés, les cheveux dressés sur la tête comme des piquants de hérisson, Dany fit volte-face et s'enfuit à toutes jambes vers la porte extérieure qu'il trouva refermée. Sans penser qu'elle n'était peut-être pas verrouillée et qu'il suffisait de tourner la poignée pour sortir, il se mit à cogner dessus et à pousser des hurlements déchirant aucune. La morte, au ventre ballonné, aux cheveux desséchés qui gisaient, magiquement embaumés depuis des années dans cette baignoire, s'était levée. Et les bras tendus s'étaient lancés à la poursuite de Dany. Il l'entendait s'approcher, mais dans son affolement, il ne trouvait d'autre défense que de cogner encore, plus désespérément, sur cette porte qui se refusait à s'ouvrir. Tout à coup, une voix calme et rassurante se fit entendre. La voix de Dick Halloran. Et Dany, qui avait retrouvé la sienne, se mit à pleurer doucement, non pas de peur, mais de soulagement. Je ne crois pas que tes visions puissent te faire du mal, Dany. Pas plus que les images dans un livre. Si tu fermes les yeux, elles disparaîtront. Voilà, c'était un extrait de Shining, l'enfant lumière de Stephen King.
D'accord.
Ça vous raconte quoi, cet extrait ? Est-ce que vous aviez déjà lu du Stephen King ?
Tout à fait différent du précédent.
Ah oui.
Bon, effectivement, ça représente tout à fait la peur. En fermant les yeux, j'y étais. Hein ? Donc oui, c'est vrai que vous lisez très bien, je vous le redis. Et oui, on peut avoir quelques petits sursauts de peur en se plongeant dans le personnage. Vrai ?
Bon, et en rouvrant les yeux, tout va bien ?
Mais tout va bien. Bon. Oui, mais c'est vrai, avec toute cette période grisâtre autour de nous, mais bon, ce sont des contes. N'est-ce pas ?
Alors, c'est plus qu'un conte, puisque en fait, c'est un roman de Stephen King.
Ah.
Ouais, c'est un roman, toute cette histoire. Mm-hmm. Et pour dire un tout petit mot de l'histoire, c'est une famille qui se retrouve gardienne d'un hôtel qui a été entièrement emmuré de glace par la neige, et ils sont isolés du monde, et ils vont rencontrer un tas de personnages ou de, on va dire, de fantômes, on peut dire ce mot-là, parce qu'il y a un enfant, et ce petit Danny est un enfant qui a un don bien particulier.
D'accord.
Voilà. Et c'est un roman qui fait bien 600 pages.
Ah oui, oui. Il est vrai que je n'ai pas forcément l'habitude de ce genre de roman. Donc voilà, c'est très bien, c'est très bien.
Alors voilà, si vous continuez la lecture, eh ben vous allez dans une médiathèque, Stephen King, et vous retrouverez Shining, l'enfant lumière.
Eh bien, je regarderai.
Merci pour ce petit moment ensemble, Gisèle.
Mais de rien, ce fut également un plaisir pour moi, qui en même temps, même si on parle de la peur, relaxe.
Ah, bah formidable.
Bah oui, parce que, mais oui, parce qu'on prend le temps, bah voilà, de se laisser aller.
Donc à une prochaine fois sur les histoires au bout du fil.
Eh bien, je vous remercie beaucoup.
Bonne soirée.
Merci, au revoir.
Au revoir, Gisèle.